C'est la deuxième partie de ce 1162e Sweet Home Chicago sur le 666 avec Terry Scott, interview fleuve avec quelques extraits de sa discographie depuis plus de 50 ans et également de larges extraits de son tout nouvel album qui s'appelle Terry Scott Junior. Je vous laisse découvrir tout ça. Terry, bonjour Terry Scott.
Bonjour Marc Lajon.
très heureux de t'accueillir au micro de Radio 666. Terry, en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Tu viens d'Outre-Manche, c'est bien ça?
Oui, à Southampton.
Southampton?
Juste en face.
Et tu es arrivé en France il y a combien de temps?
Exactement 50 ans.
50 ans?
Oui. 72.
Et depuis, tu ne cesses de faire parler toi à droite, à gauche. Mais j'aimerais bien qu'on revienne sur tout début, parce que je crois qu'avant de franchir le channel pour la fois définitive, tu as vécu des choses incroyables, et notamment en 1970, il me semble.
Oui, on était à 600 000. Alors, un petit festival qui s'appelle la Isle de Wight.
L'Isle de Wight.
1970, donc, avec Jimi Hendrix.
Oui.
Beaucoup de monde, quoi.
Mais tu n'étais pas dans le rang forcément des spectateurs, enfin pas que, tu étais également on stage, sur
oui,
scène.
Oui, j'ai joué le dimanche, le fameux dimanche, avec le grand vedette. J'étais avec un orchestre qui s'appelle Heaven. Mm-hmm. Et c'était un orchestre brass rock, un peu dans le même style de Blood, Sweat and Tears, Chicago, company, voilà.
Et tu étais chanteur à ce moment-là?
J'étais chanteur, voilà.
Mmh, guitariste, non?
Non, je n'ai pas joué de guitare là, sur scène à cette époque-là, non, c'est plus tard.
Voilà. Est-ce que tu te souviens, Terry, plus de 50 ans après, de ce que tu as ressenti juste en montant sur la scène et devant tous ces gens, devant tous ces fans?
Oui. Je l'avais, tu sais, le percussion, le congas, c'est ça? Mais j'avais un paire de congas parce que je jouais de percussion avec le batteur dans un certain morceau. Et je me souviens, je jouais le congas, mais mes genoux, ils tapaient beaucoup plus vite que je jouais le congas. J'étais tellement nerveux de regarder un fou pas possible. C'était comme un nid de guêpe. C'était vraiment incroyable, quoi. Ouais. Mais bof. Après, c'était bon, quoi. Ouais, ouais.
Et alors, le trac, la boule au ventre à ce moment-là, peut-être?
Ah oui, oui. Ouais. Ah oui. Moi, j'avais 21 ans. Ouais. Alors, deux ans avant ça, j'ai travaillé dans une usine, carrément. Ouais. Alors, je me souviens, en 69, j'étais là, devant la scène, dans le public. Mm-hmm. Et je regardais les gens et j'ai dit, un jour, je vais... Si je peux arriver de jouer sur scène à Isle de Wight, c'est vraiment un truc incroyable. Et un an après, j'étais là.
Seulement un an après, tu as pu réaliser ce rêve.
Oui.
Alors tu dis, bien, tu étais jeune, mais tout le monde était jeune à ce moment-là. Parce
oui.
que vous avez vécu, quand je dis vous, c'est voilà, tous ceux qui sont nés entre 1940 et 1960, vous avez vécu cette période-là de l'intérieur. Et ces musiques-là, c'est toutes celles qui continuent à nous faire vibrer de nos jours,
oui.
sont toujours présentes en vous.
Oui, bien sûr. Bien sûr. J'étais... Je sais pas, à l'âge de 17 ans, je travaillais comme un pâtissier dans un club, un peu comme Club Med, parce que j'étais à l'université pour les études, pour ça. Oui, moi, là, j'ai travaillé avec quelqu'un qui vient de Londres, qui était pour moi, c'est la grande city. C'est si tu habites dans un petit village en France et tu montes à Paris, c'était exactement la même chose. Et lui, il jouait le guitare folk, the harmonica, le percussion avec les genoux, a one-man band. Et il fait toutes les chansons de... À l'époque, c'était Bob Dylan. C'est changé ma vie. Carrément, c'est pour ça que je prenais de guitare et j'étais très influencé par Bob Dylan. Mais à la même temps, Stax, Motown, j'avais, comment tu dis ça, un univers grand. Hein. C'était pas seulement de folk, c'était vraiment soul. J'étais beaucoup soul music aussi.
Mais c'est ça qui te caractérise, Terry, c'est ton multiculturalisme quelque part. C'est-à-dire que tu ne t'intéresses pas à une ou deux musiques, mais à beaucoup, parce qu'on peut te retrouver dans des projets country, dans des projets blues, dans des projets rock and roll, pop.
À cause de mon père, il écoutait Hank Williams. Uh-huh. C'est un chanteur de country qui a créé je ne sais pas combien, 1000 chansons. Il était mort très jeune aussi. Mais c'est, même aujourd'hui, tu as des gens comme Clapton, Keith Richards, plein de monde qui fait les chansons de Hank Williams. C'est vraiment incroyable. Et, lui, il m'a touché beaucoup aussi. Et comme tu dis, oui, j'ai cette country de lui, j'ai le folk de Bob Dylan, j'ai le solo de Otis Redding, Wilson Pickett, j'adore toute la musique.
Toutes ces influences.
Si c'est bien fait, oui.
Toutes ces influences qui ont fait l'homme que tu es maintenant, et puis pas seulement le musicien, mais aussi l'amateur de musique. Tu as eu l'occasion, allez, on va parler de ces années 70, 73, 74, de rencontrer des musiciens de renom, de travailler avec certains d'entre eux, je crois.
Oui, quand j'ai arrivé en France, Basque Heaven, c'était à la fin de contract avec CBS. J'étais resté à Paris, alors j'allais voir CBS à Paris. Il m'a proposé de faire un disque solo avec le compositeur William Scheller. Ça me dit quelque chose, ça.
C'est ça, hein?
C'est cela, c'est un Better World. Ça, c'est Fairdiewell.
Fairdiewell.
Je préférais, c'était la phase B.
Oui, c'est la phase B, et moi aussi, parce qu'il y a cette intro au piano qui est absolument magnifique.
Absolument, oui. And so it's getting near the end. Just like to thank you
for the good time. Voilà, avec des arrangements de cordes derrière.
Absolument, ça m'a coûté une fortune. Je ne savais pas à l'époque, mais je l'avais payé les orchestres pour 20 ans après, je crois.
Ah oui?
C'était avec l'orchestre de Paris, un petit peu, le chœur de l'opéra. Mais vraiment, c'était une grande extravagance. J'ai enregistré un studio d'Avu à Paris.
Ah oui, d'accord.
Oui, c'était ça.
Avec la complicité de William Scheller qu'on entend au piano.
Oui.
Hein?
Oui.
Comment est-ce que s'est opérée cette rencontre avec ce grand artiste qui est William Scheller?
Mais bon, voilà, j'étais à Saint-Michel-sur-Orgue, dans la banlieue de Paris, quelque part, et j'ai joué avec un orchestre qui s'appelle Pura Vida, qui est venu Bijou. Alors, j'étais avec eux à l'époque, mais bon, on répète tous les jours, on n'avait pas de sous de tout, vraiment rien de tout. Et, comme je l'avais dit à CBS, il m'a proposé de travailler avec un certain Tom Arena. Il était dans un orchestre des Irrésistibles. Et ils avaient un disque numéro 1 qui s'appelle My Year is a Day, qui a été pris par Dalida. Et c'est la chanson d'entrée de le nouveau film de James Bond.
D'accord, carrément.
Oui, ouais. Alors, avec Tom, on a travaillé ensemble. Mais... c'était pas sérieux. On fait la fête tous les soirs. On était dans le pub, on jouait la fléchette.
Ah, mais bon,
et il est resté mon meilleur copain jusqu'à la fin de sa vie. Mm-hmm. Malheureusement, décédé en 2013. Oui. Et CBS, Jean Équion, mon directeur artistique, il m'avait dit, écoute, j'ai un autre monsieur de présenter. Il s'appelle William. Alors, William Scheller, bien sûr.
Et lui aussi, il joue aux fléchettes ou dans les
télévisions? Il jouait pas du tout, la fléchette. Pas du tout. C'était pas le genre. Mais il était sympa. Et je répétais beaucoup chez un autre musicien qui s'appelle Alain Suzon, qui avait un orchestre qui s'appelle Alice. Et avec toute cette bande-là, on avait répété tous les jours, pour quelques semaines, pour préparer cette disque, Fairdiewell and A Better World. Et c'est comme ça que je connaissais William, grâce à CBS.
A Better World, ça donne ça. Un peu différent comme orchestration.
Oui, oui. Ça, c'est la musique d'un un album de William d'origine. Ça s'appelle Lux Eternal. Et, c'était un grand truc, mais sans parole, sans chant. Alors, il m'a demandé de faire une parole qui colle à peu près avec la musique de Lux Eternal.
Il y a une très très longue intro musicale, justement, et tu commences à chanter.
With only memories, yes, I've been thinking of the time when you were very young, but so aware of what was going on. To see your papa gone, it must have turned your world apart.
Quel succès a été réservé à ce 45 tours, deux titres, donc, Terry?
Le problème, bon, c'est pas mal vendu, mais le problème, c'était juste après toute la télévision, j'avais un plan de télévision à faire, et je l'avais fait avec Sport en fait, c'était avec Michel Drucker, pour les, le Tour de France, pour les, en 73. Ouais. Juste après là, il avait la grande grève de ORTF, je crois, alors, qui a duré, je ne sais pas, 2-3 mois.
Oui, c'était au moment de la restructuration.
Voilà, c'est ça. Alors, tout était annulé. Alors, moi, j'étais parti pour quelques mois en course, parce que, bon, il n'y avait rien à faire à Paris. Comme j'ai dit, je ne connaissais pas beaucoup de monde à l'époque. Et, j'ai dit, bon, je ne veux pas rester à Paris. Alors, j'ai parti pour 2-3 mois. Et après, j'ai revenu. Et, bon, c'était pas le même. Il n'y avait pas de programmation.
Ouais.
Oui. Ça veut dire que c'était un disque qui était déjà sorti pour quelques mois, alors ce n'était pas dans l'actualité.
C'était trop tard déjà, quoi.
Voilà, ouais. C'est ça. Ouais.
Et ensuite, on te retrouve quelques années après. Alors, il s'est passé plein de choses, j'imagine, encore dans les années 70, mais on va écouter un truc, je ne sais pas si tu peux réagir à ça, Terry. Alors là, quand j'ai écouté ça la première fois, Terry, je vais te donner mon sentiment. J'ai tout de suite pensé à Miss You, des Rolling Stones.
Ouais, c'est vrai.
Je sais pas, avec cette espèce de basse qui slap et puis...
Je crois que c'était Jean-Jacques Milteau en harmonica.
C'était Jean-Jacques Milteau?
Oui,
je crois. Yes. Alors là, on est en quelle année? 78, 79?
79.
79, donc c'est effectivement un an après la sortie de Miss You, des Rolling Stones. Un titre assez dansant. Et je crois qu'à cette époque-là, tu es rentré un peu dans la vague disco, non? Carrément.
Alors, le disque, c'était presque déjà fait.
Ouais.
Et c'est la maison de disque AZ qui m'a contacté pour dire, on veut vraiment faire cette disque avec vous. Est-ce que tu peux chanter?
Ouais.
Qui était très difficile parce que c'était, comme j'ai dit, c'était déjà fait dans toutes les tonalités et pas forcément dans mon tonalité.
Donc c'était enregistré et il fallait s'adapter.
Il fallait au moins que j'adapte à tout ça. J'étais pas vraiment un disco dans ma tête, mais il avait une chanson qui s'appelle Sleep as a House et je crois que c'était. J'aimais beaucoup cette chanson.
C'est ça, hein.
Malheureusement, le parole c'était fait par Boris Bergman, qui j'avais dit, après j'écoutais Gabi.
Oui, il a travaillé avec Bachung pendant des années.
Bachung, j'ai adoré. Mm. Alors j'ai dit, bon, c'est bon. Mais par contre, le parole, pour moi, c'était rien de tout. Rien de tout. Et je n'avais pas la possibilité de faire le parole moi-même, parce que c'était, comme j'ai dit, le disque était déjà fait. Alors, pour moi, c'était un titre qui pourra super marcher, comme je dis, mondial, en anglais, comme je chante. Mais à cause de la parole, je crois, c'était vraiment pas top.
Mm.
Et j'étais vraiment déçu. Mais quand même, je l'avais fait le disque pour gagner un peu de sous quand même, parce que bon, ça marchait pas très fort à l'époque. Et là, j'avais besoin de sous, évidemment. Un cachet. Et après, bon, j'avais plein de cachets parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de télévision avec ça, avec Colorado, avec tout le monde, quoi.
Daniel Gilbert?
Avec Daniel, j'ai fait 3 fois avec Daniel, à l'époque différente.
Ça, c'est de la grande audience, quoi.
Douche. elle était gentille comme tout. Ouais, vraiment. Je crois que c'est Claude Angel qui fait les solos. Ouais.
Est-ce que je peux me permettre de donner mon avis sur ce genre de choses au niveau de l'interprétation vocale?
Bien sûr.
Quand j'ai écouté ça, j'ai beaucoup pensé à Joe Cocker.
C'est pas la première fois. Mais moi, j'ai trouvé la parole. Hein, quand j'ai demandé Boris d'expliquer-moi la parole, il dit oui, mais c'est comme. C'est comme Procol Harum, A White Shade of Pale. Ouais. C'est aucun sens de parole, tout le monde demande.
Alors c'est vrai que Gary Brooker, il a chanté un petit peu n'importe quoi, mais ça a fait quand même un tube mondial, ce White Shade of Pale.
C'est à quelques semaines, j'ai regardé Gary Brooker avec l'orchestre symphonique en Danemark. Mm-hmm. Qui fait cette chanson-là, je l'avais les larmes aux yeux, là. Ouais. Et il est. Il est magnifique, cette chanson.
Il a disparu il y a quelques mois.
Un grand, grand chanteur qui était vraiment sous-estimé. Quand tout le monde parle de chanson, chanteur préféré, il n'y a pas beaucoup de monde qui cite
Gary Brooker. Et pourtant, tout le monde connaît ce tube. Intemporel. I was feeling kind of seasick. The crowd called out for more. Mais est-ce que les gens connaissent les autres morceaux? C'est beaucoup moins évident.
Ouais.
Parce que Procol Harum a eu une discographie. Ça fait partie de tes rêves, ça aussi, peut-être, d'avoir eu envie de percer comme à Joe Cocker, Terry?
Bah, bien sûr, oui. C'est jamais trop tard.
C'est jamais
trop
tard.
J'ai seulement 85 ans.
pas encore. Il y a encore une étape de ta vie, Terry, qu'on pourrait mettre un petit peu en lumière ici. C'est cette rencontre qu'il y a eu avec un certain Mickey Finn. Mickey Finn, qui a été le guitariste de Nino Ferrer pendant des années.
Absolument, un Jack Higelin aussi, un champagne, un caviar pour les autres.
C'est vrai. Et puis qui avait commencé début des années 60, c'est lui qui me l'avait dit à l'époque, son guitariste est devenu le guitariste de Led Zeppelin.
Et à l'époque, cet monsieur-là, je ne vais pas citer son nom parce que personne ne connaît.
Jimmy Page, je crois.
Il joue à l'harmonica dans Mickey Finn et le Blue Man.
Incroyable.
Ouais.
Alors on va écouter cette rencontre-là. Alors, pas de tout début. C'est du live, hein, on est d'accord. Le son est un peu pourri, mais on peut se rendre compte de ce qui se passe. Hein.
Baby, please don't go.
Do you remember that?
Yes.
Voilà, vieux tube de blues, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Willie Dixon, des gens comme ça qui ont popularisé le blues avec ce titre Baby, please don't go. Et là, c'est toi qui chante, hein, on est d'accord.
Oui, oui.
Là, c'est un petit peu plus récent. On est à quel moment, tu t'en souviens?
Oui, l'année 2000.
2000.
Oui.
Et voilà, et là, tu partages la scène avec Mickey Finn. Quels sont les liens qui t'amenaient à connaître ce garçon?
C'est une drôle d'histoire. Parce qu'à l'époque, Heaven, mon orchestre en Angleterre, c'était dans les années 70, je crois. 71, voilà, exact. Il fallait CBS me demander de reformer un autre orchestre sur le nom de Heaven, mais d'éviter tous les cuivres et tout ça, faire un truc plus rock. Alors j'ai fait une annonce dans le Melody Maker, searching guitarist, blah 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 blah, usual shit. Et, mais j'avais le guitariste incroyable qui est venu, j'avais little Jimmy McCulloch qui il avait 16 ans, et après il était parti pour jouer avec Wings, avec McCartney.
Avec McCartney,
ouais. J'avais The Groundhogs, Tony McPhee, pour moi c'était le guitariste le plus proche d'Hendrix en Angleterre à l'époque. The Groundhogs, c'était vraiment un super orchestre. Il est venu, mais j'avais plein de guitaristes très très connus, et ça collait pas. À l'époque j'avais le batteur de MC5, Richie Darma, qui jouait avec moi, et Rick Kemp en basse, qui jouait avec un Steely Eispan.
Oui.
Le grand musicien quand même. Et on a fait interviewer tous les guitaristes. Et il n'y avait pas un qui était vraiment dans notre esprit.
Il fallait quelqu'un qui ait un peu de folie, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et le dernier, qui était 3 heures en retard,
complètement
bourré, entre Mickey Finn.
Comment je suis pas étonné.
Il n'a même pas joué la guitare, il dit bon, c'est bon. Ben, il était un guitariste fantastique, il était vraiment. Et il m'avait dit, excuse-moi si j'ai joué mal, mais normalement je suis gaucher. Alors là, je un montre complètement.
Et il a joué à droite.
Il a joué à droite. Et bon, c'était jusqu'à la fin de sa vie. On a joué ensemble, quoi. Ben lui, il était parti après pour jouer avec Steve Marriott, de Steve Marriott aux Stars. Après, The Heavy Metal Kids, qui était un orchestre un peu punk rock à l'époque, avec un certain Gary Holton qui chantait. Et oui, en France, on a fait un album ensemble.
Et voilà, parce que lui aussi a vécu en France, il nous a quittés en 2013.
Voilà, exactement. Mais 2013, j'ai perdu beaucoup des amis.
J'ai l'impression, c'est incroyable. Et donc, voilà, cette rencontre, il y en a eu d'autres. Hein. J'ai pas toujours des illustrations musicales, mais j'imagine que toi, Terry, tu dois posséder des archives incroyables. Tu gardais des enregistrements, des concerts, des répétitions
J'ai lavé quelques-unes, mais je sais pas, avec le temps, on a déménagé deux, trois fois, peut-être en cassette quelque
part.
Ça
tient longtemps, les cassettes audio. Hein,
mais j'avais fait un bon 33 avec Mickey, qui s'appelle Scott on the Rocks. Et il est un super musicien, Eric Levy, par exemple, en guitare, qui a fait la musique pour les Visitors. Il jouait avec Shaking Street à l'époque. Voilà, c'était ça. Ouais.
Tu parlais tout à l'heure du groupe Bijou, Shaking Street, voilà, des groupes qui ont compté aussi sur la scène rock française, aux côtés de gens qui étaient tout aussi connus qu'eux à l'époque, Téléphone, Trust, Star Shooter, etc. Oui. Et là, toi aussi, tu as pris part à ce genre de scène. Quels sont les groupes comme ça depuis les années 80, depuis même 1972, depuis que tu es en France, quels sont les groupes avec qui tu gardes des contacts, des musiciens avec qui tu gardes des relations aujourd'hui?
Vraiment, non, pas beaucoup. Non. Malheureusement, j'ai dit ça, mais comme Karen dit, beaucoup est décédé, ils sont plus là, mais c'est ça, on arrive à un certain âge, on perd les amis, beaucoup. Mais avec William, j'ai plus de contact avec lui depuis des années. J'ai plutôt le contact avec mes musiciens anglais, comme John, le bassiste Status Quo, qui s'appelle Rhino. Et, parce qu'on a joué ensemble dans mon orchestre en 76, The Spam Band. Oui. Ce qui était produit par Nino Ferreira. On a enregistré ça au Parc de Saint-Cloud, chez Nino. The Heavy Metal Kids, un certain membre de l'orchestre Heaven, notamment John Gordon, le bassiste, qui jouait dans mon nouveau CD, là. On n'a même pas parlé au téléphone depuis 50 ans.
Ah oui.
Et il m'a contacté par mail.
D'accord.
Si tu fais un CD et tu as besoin d'un bassiste, parce que c'était pendant la pandémie, on est obligé de faire ça par Internet, comme beaucoup de monde. Qui a joué, c'était le bassiste d'origine de Supertramp. Et après, il jouait avec Alan Price, qui était l'organiste dans The Animals, House of the Rising Sun. Et il a joué beaucoup avec Alan Price. Il a même joué le double, contrebasse avec Bill Haley and the Comets, quand ils sont venus en Angleterre pour faire un tournée. C'était lui qui a joué de basse. Et c'est un super mec, vraiment gentil, généreux.
Cette histoire incroyable, 50 ans après, pas de contact, et tout d'un coup, bon, tu fais quoi pendant les 3 prochains mois?
Voilà, grâce à Facebook, parce que bon, il était là, on l'a contacté par là. Mais on a commencé ensemble en 68, je crois, dans un petit orchestre qui s'appelle Paper, qui avait un guitariste Barry Paul qui était incroyable. C'était Raymond Clapton, influencé. Et Heaven, c'était un orchestre de folk, plutôt dans le vent d'Ozzy Bissa à l'époque. C'était vraiment folk rock, un peu des épis, qui parle beaucoup, et je parle pas beaucoup. Notre maison de disque en Angleterre à l'époque, il a dit, est-ce que tu peux mettre Paper, l'orchestre, vis-à-toi, avec la moitié de Heaven, et reforme un nouveau Heaven. Et c'était cette Heaven-là.
D'accord.
On est parti pour jouer à l'Edouard. Mm-hmm.
a joint in a massive bed. Stop me out in the world. What a dream in the world. What a dream in the world. No, you never can tell. Sitting in the corner of a dark cafe. Just come up and you take me away. Without her clothes, she's on a headstand. Yeah, the waitress.
Et maintenant, cet album, Terry Scott, cet album qui est sorti et qui comporte 9 titres, je crois.
Oui.
On va pouvoir grêler comme ça le nom de chacun des musiciens. Il y a énormément de gens qui jouent sur ce disque.
Oui. Notamment, je vais commencer avec Krzysztof Juzewicz, qui était depuis mon 60e anniversaire, disons 13 ans maintenant. On a joué ensemble, il jouait avec Skinelli avant, c'était un orchestre très connu en Angleterre à l'époque, Underground, qui sont partis en États-Unis chez Atlantic Records pour jouer avec, ils ont engagé les musiciens d'Otis Redding, comme les Memphis Horns et tout ça. C'est produit par Don Nix, qui est le fameux compositeur de Going Down.
Going Down.
Going Down. Et je suis en contact avec Don Nix. Il est vraiment gentil. Il était malade, mais je crois qu'il est beaucoup mieux là. Je touche. Bon, Christophe, c'est un super organiste. Il était vraiment un docteur de la musique. Il était à une grande université. Sa femme, c'était le manager personnel de Queen. Ils sont grandi avec toute cette famille-là. Après, bon, j'ai Danny Lavital, qui est un monsieur que je connaissais. C'est l'anniversaire de mon fils Ben, Benny Scott, qui joue la batterie et produit mon nouveau CD, là, qui joue le piano sur How Dirty Can You Get. Et, c'est un jeune, il est vraiment superbe. La première fois que j'ai vu Danny, il était dans un orchestre, il jouait tout le truc de Donny Hathaway, Stevie Wonder, un claviniste vraiment fantastique.
On va écouter ce titre, Terry, How Dirty Could You Get. On va écouter ça.
Avec un certain Laurent Shoebreck.
Et voilà.
And they don't know why. Some stupid reason someone has to die. Like the Warsaw ghetto of Vietnam. The leader says killing gonna make you a man. It ain't just a question of killing for need. It's murder for power, political greed. Won't you follow the cause? You got to kill your neighbor for the sake of the law. How dirty can you get? How dirty can you get? Just how dirty can you get? How dirty can you get? Shooting on each other, telling stupid lies. I talk about the Solomon cutting down the sides. Same propaganda, read it in the news. Seven, nothing but the blues. Ain't just a question of eating humble pie. It's a game of war in a smoke-filled sky. So come on everybody, won't you follow the cause? You got to kill your neighbor for the sake of the law.
Laurent Shoebreck, Terry, et justement, l'idée c'est que ce disque regroupe des gens tout à fait différents, d'horizons différents.
Absolument.
Des Français que tu connais parfois depuis moins de 10 ans, je ne sais pas.
Ah ou... oui. Et... Moi de 3 ans.
Ouais, moins de 3 ans, même, carrément. Ouais. Et puis d'autres que tu connais depuis plus de 50 ans, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Alors, Laurent Shoebreck qui intervient sur 3 titres, et puis également Emmanuel Desnos sur 2 de ces titres-là, qui partagent la scène avec les Witch Doctors, avec Jean-Christophe Panico. Tu as fait venir également Pat Fox sur un morceau.
Oui. Ah,
Pat Fox, son vrai nom, c'est Patrick Renard, hein, tout le monde a compris.
Absolument.
Et puis d'autres, Dean Cheronis, Sébastien Hoog, il y a plusieurs bassistes hein, qui interviennent. Ouais. Tu citais John Gordon, bien sûr. Danny Lavital, piano. Ouais. Anne Calvert et Barry Johnson sur les backing vocals.
Anne, elle a fait tous les tubes en français avec Michel Sardou, tous les industries, tous les Marianne Gilbert Carpentier, tous ces gens-là. Elle a joué avec deux autres, elle a chanté, excuse-moi, avec deux autres filles, Yvonne Jones et un certain Carol Fredericks.
Ah oui.
Carol, elle est
toujours. La sœur de Taj Mahal.
La sœur de Taj. Elle chantait avec moi beaucoup, avec Scott on the Rocks, par exemple. Mm-hmm. Un autre truc, c'était On the Very First Day, un autre disque que je l'avais fait plus tard avec Carol. Elle était vraiment gentille, j'ai adoré Carol. Ouais.
Et alors, il y a sur cet album 9 titres, on l'a dit, avec des compositions, Terry, et puis également des reprises. Et tu reprends notamment un titre de Johnny Cash qui s'appelle Folsom Prison Blues.
Oui.
C'est quelque chose que tu joues depuis longtemps?
Non, pas du tout.
Non?
Pas du tout.
Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de reprendre ce titre-là?
Je sais pas du tout.
Tu parles de prison dans plusieurs morceaux. Hein.
Oui. Non, je n'ai jamais fait. Hein.
Ah, je sais pas
encore.
Je sais pas.
Hein. Life goes on.
Et pourquoi Johnny Cash, Terry?
Ah j'adore Johnny. Vraiment, oui. J'adore le country, mais j'aime pas le truc. Comment tu dis, avec le paro, l'église, Mama was a cripple from Nashville, et tout ce genre de musique-là. J'adore, parce que lui, je trouve, il est plutôt folk, et il est très populaire avec tous les rockers quand même. Alors, c'est un grand, grand monsieur. Un grand monsieur.
On va écouter ça.
I hear that train coming. Coming round the bend. I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck at post in prison and time keeps dragging on. But that train keeps it rolling on down to San Antonio. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folk eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. But I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep moving, and that's what tortures me.
Some Prison Blues, ici version Terry Scott, voilà, qu'on vient d'écouter. Et puis il y a un autre titre sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, c'est celui-ci, Terry. Take Me Home.
Country Roads.
Almost heaven, West Virginia. Trees, younger than the mountains, growing like a breeze.
I've got one question in English for you, Terry. Where is the heaven?
Where is the heaven?
Yeah.
Heaven's in the bottle of Jack. Heaven's all the way, all in your own universe where you want it to be.
Make your home where you hang your hat?
Yeah, wherever I lay my hat, that's my home.
Voilà, Take Me Home, et puis rappelons que ton groupe à l'époque de l'île de Wight, c'était justement le groupe Heaven, le morceau Heaven qui figure dans cette reprise-là, et puis des créations, des choses que tu as composées comme Nothing At All. On avait passé ça il y a quelques mois dans la radio quand le disque était sorti, il y a quelques semaines de ça. Tu peux nous parler plus particulièrement de ce titre, Terry, Nothing At All?
Non, c'est juste... J'étais en Irlande à l'époque, en année 99, je crois. J'étais sur Brittany Ferries. Et j'ai écrit ça dans ma tête. Et j'avais pas de guitare ou rien de tout avec moi. Et j'entrais dans la maison et j'avais des paroles et tout. C'est juste un clin d'œil. On vit dans une époque de selfies. On n'a rien à foutre avec les autres. Ça ne peut jamais arriver chez nous. J'ai regardé un film deux semaines grâce à mon fils Ben. Ça s'appelle Don't Look Up. Je ne sais pas si vous avez... C'est une histoire d'un meteorite, comment on dit ça, un comète ou je ne sais pas quoi, qui va écraser la Terre.
D'accord.
Mais c'est un truc ironique avec Meryl Streep. C'est hyper, hyper drôle. Uh-huh. Et comme tout le monde dit, oui, mais c'est pas grave. Don't Look Up. Mm-hmm. Il faut vraiment regarder ce film. Et ça veut dire... Les gens, ils sont fous avec l'histoire de chauffage de climat et tout ça. Oh non, bon, on va être tous bronzés et tout ça. Mais vraiment,
Terry, tu penses que maintenant, le public et les gens en général sont blasés? Il y a trop d'informations, c'est à cause de ça, non?
Bah oui, mais quand vous avez la chaîne de nouvelles qui fait 24 heures par 24 heures, il faut remplir avec... la même histoire.
Donc c'est anxiogène finalement.
J'ai un reproche à ce moment-là avec l'histoire de reine d'Angleterre.
Alors justement, parlons-en. La reine qui vient de nous quitter après 70 ans de règne, quelle était ton impression, Terry? Tu t'es dit, all a pity, she was a great queen, or peut-être
it's okay parce que quand même, la première chose, c'est 96 ans.
C'est pas mal.
Deuxièmement, j'ai beaucoup de respect pour elle parce que c'est vrai, c'est pas toujours elle fait toujours pas le bon truc, mais elle était dédiée toute sa vie, même pendant la deuxième guerre mondiale. Elle était là, conduit le tank et tout ça. Elle était vraiment
dévouée, c'est ça.
Oui, vraiment. Par contre, j'étais pas très royaliste, parce qu'ils vivent pas dans la même planète, ils payent pas les impôts.
Non, ils en récupèrent. Et puis, il y a un sacré patrimoine aussi, presque un demi-milliard avec les propriétés immobilières. Enfin, c'est assez hallucinant.
Il y a un budget
annuel conséquent.
Et c'est les gens qui Charles et tout ça, on veut regarder qu'est-ce qui se passe dans l'avenir, mais bon, j'ai pas beaucoup d'espoir avec ça, mais comme je dis, pour les nouvelles, on a rendu les nouvelles 24 heures pour 10 jours maintenant,
et
un jour, c'était vraiment la chose la plus importante. David Beckham, il avait fait le cœur pour 12 heures. Alors, quand tu attends ça 50 fois dans la même journée, tu demandes un calmement d'envie.
Effectivement. Donc voilà, il faut tourner la page et peut-être voir disparaître le Commonwealth, peut-être qu'avec...
Juste un truc. L'autre jour, j'étais à Bernière. C'était à Bernière.
Bernière-sur-Mer.
Un monument, là. Mm-hmm. On regardait le drapeau qui était comme baissé de moitié.
Il faut rappeler pour les gens, Bernière-sur-Mer, ça fait partie des plages du débarquement.
Absolument.
Je parle pour les gens qui ne connaissent pas le Calvados. Voilà. C'est chez nous que c'est arrivé en 1944.
Hein. Bah oui, c'est ça.
Ouais. Merci les gars.
Bah, la Canadienne, surtout.
Oui, à Juno.
Bah oui. Mais elle avait un band de bikers, là, Harley Davidson.
Ouais.
Et on demandait bonjour, parce qu'il s'était matriculé en anglais. C'était les Anglais. J'ai dit bonjour, comme ça. Oui, bonjour, blablabla. Et il y avait un qui était en larmes, à cause du drapeau qui était... Auburn, voilà, mm-hmm. Exact. Il était en larmes, je dis, pour un biker, il dit, j'ai fait 20, on est les Marines, on a fait 26 ans de la Marines, et elle, c'était le grand boss.
Oui.
Et c'était impressionnant, il s'était vraiment de troubler. Il pleurait carrément. Quand j'ai dit, bon, les bikers, là.
Même les bikers.
Mais ça veut dire quelque chose, tu vois. Elle était vraiment
voilà.
Le patron.
Pour résumer, tu disais, tu n'es pas royaliste. Pas besoin d'être royaliste pour apprécier le travail d'une personne.
Absolument.
Et on peut apprécier la personne, même détachée de sa fonction, finalement.
Oui.
C'était une bonne personne.
Oui. Bon. Moi, je trouve que c'est une bonne personne.
Passons à autre chose.
Mais oui.
Parce que Charles, à mon avis, ça va être un peu différent.
Il va
pas régner 70 ans, lui, ça c'est sûr.
Peut-être pas. 143 ans.
On est dans le volet politique de cette émission.
Voilà.
Et peut-être en 30 secondes, what do you think about the Brexit?
Bon idiot.
Voilà. Boris, bien résumé.
Boris Le Clun, Nigel Farage, vraiment, j'étais honte.
C'est une erreur majeure de la part du gouvernement.
Une erreur monumentale, ouais. Non, parce que il faut être unifié, hein, parce que quand même, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on n'a jamais eu en guerre. Hein, les Allemands, les Anglais, les Français, tout le monde, quoi. Italiens, blablabla. Alors, de casser quelque chose comme ça, je crois que ce n'est pas très positif.
Ouais. Ouais. Et dernière question à ce sujet-là. What about Ulster? Qu'est-ce qu'il faut faire de l'Irlande du Nord?
Oh, bah, moi, j'étais...
Ireland, voilà. Terry, un t-shirt Ireland.
Ah, bah oui. Bah, j'ai pris l'Ireland.
You mean
parce que
one
là,
Ireland, you mean?
Oui. Bah, j'ai pris ce t-shirt-là, Ireland, ouais. Parce qu'il avait un anglais, mais c'était moins cher.
D'accord.
Non, le compteur, excuse-moi. Ah, oui. C'était le plus cher.
C'était le plus cher.
Donc, non, non, moi, je suis vraiment Irlande, c'est Irlande.
Ouais.
Histoire d'Irlande du Nord qui date, je ne sais pas, 650 ans.
Il faut réunifier, c'est ça l'idée?
Bien sûr. Et si l'Écosse, il veut indépendance, là, je ne suis pas très certain. Ouais,
Mr. Bon. Terry Scott, the next Prime Minister in Great Britain. Thank you.
Yes. We would fight them on the beaches.
I didn't say UK. I say Great Britain. It's different.
Est-ce que tu veux remarquer sur le voiture maintenant? C'est
UK.
UK maintenant.
Oui, j'ai remarqué. Il n'y a plus de GB. C'est fini.
Voilà.
Et tout le monde croit qu'ils viennent d'Ukraine. Mais pas du tout. C'est United Kingdom.
Bah oui.
Effectivement, toutes vos voitures, les Anglais, les Gallois et les Écossais et les Irlandais du Nord, c'est marqué UK. Juste pour dire, attention, maintenant, Great Britain, c'est fini. On réaffirme cette possession de 4 pays.
Ouais.
Voilà. Et donc ça te fait rigoler un petit peu, non, j'ai envie de dire.
Pas vraiment, parce qu'il y a beaucoup de monde qui vivent difficilement avec ça, avec les histoires de nouveaux passeports, de nouveaux aux douanes et compagnie. Il faut 2 heures à la douane maintenant, pas seulement pour les vacances.
Et c'est pas bon pour le commerce non plus.
C'est
hein.
pas bon pour le commerce, non. Il faut, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec cette nouvelle dame, première ministre. Je sais même pas son nom.
C'est pas grave.
Liz, another Liz, encore une Liz, Elizabeth.
Terry Scott, pourquoi Terry Scott Jr.? Ça, c'est une question. Ça apparaît sur l'album, et puis voilà, c'est crédité comme ça, les morceaux que tu crées. Pourquoi
Parce
Junior?
Que mon père, qui était un super chanteur-guitariste aussi, qui n'a jamais enregistré de disque, mais il travaille 6 concerts par semaine, avec 3 ans d'avance. Et là, j'ai vécu ça tout avec ça. Et son nom, c'est Terry Scott Senior.
Senior. Okay.
Voilà.
I've had fame and fortune, woman, come knock on my door. I've lived to the limit, and maybe a little bit more. There are so many stories of how I got out of control. Some say it's a woman, some say it's my troubled soul.
Terry Scott Jr., donc, qui est l'invité de Sweet Home Chicago, avec ce nouveau titre. Et maintenant, le volet des projets. Il va y avoir une tournée mondiale, bien sûr, pour promouvoir ce
disque. Absolument, oui. Surtout Bernières-sur-Mer.
Tournée mondiale à partir de Bernières-sur-Mer.
Voilà.
On est d'accord.
Jusqu'au Wistriam, peut-être.
comme Salvador Dali, pour qui le centre du monde, c'était la gare de Perpignan.
Perpignan, excusez-moi. Ouais, ouais. Wow.
Et là, c'est Bernières-sur-Mer. Il y a des choses qui vont se faire avec des musiciens normands.
Mais je suis en train de faire plein de choses avec The Witch Doctors, que j'adore. Ils sont hyper, hyper gentils. C'est des super musiciens, vraiment. Je sais pas, les jeunes locaux, je suis en train de former un orchestre.
D'accord.
Je sais pas exactement qui est disponible, parce que je sais, The Witch Doctors, Laurent Chubrac, ils sont pas mal de dates eux-mêmes, ils sont ses propres projets aussi. Et mais oui. Ils proposaient de jouer ensemble, on va voir, j'espère, parce que, comme je dis, j'adore. Il y a plein de musiciens autour de moi, Pat Fox, Larry Lacoste, qui joue dans Spirit of Memphis. Qui joue sur Nothing at All, le solo, et Folsom Prison Blues aussi. Mm-hmm. Super guitariste, c'est mes potes.
Is it a new start for you?
Moi, c'est ma vie. Mm-hmm. Je peux pas. J'ai joué avec le ukulele sur scène avec mon père à partir de. J'avais 4 ans.
Ouais.
Alors, j'avais arrêté de temps en temps pour poser un. Pour un deuxième souffle, je ne sais pas quoi. Mais c'est ma vie. Voilà. C'est ma vie.
La vie continue, ouais. Naturellement. Avec cet album, Terry Scott Jr., voilà, ce 9 titres qu'on écoute dans Sweet Home Chicago. Et qu'on peut se procurer comment et où? Dis-moi, ce sera ma dernière question, Terry. Last question, where can we find your album? C'est
important, ça. Oui, on peut acheter ou télécharger sur bandcamp.com.
Bandcamp, ouais.
Amazon Music, YouTube Music. Ou sinon, ça passe dans tout le monde, les médias sociaux, Spotify.
Recherche Google, on tombe dessus forcément.
Oui, oui, mais plutôt un Bandcamp, c'est ça qui a beaucoup de monde qui a acheté.
On va mettre ce lien-là sur le timeline de Sweet Home Chicago. Last question I forgot to ask you.
It's not the last question then.
No. But maybe you have a last question and answer it after. Because I can't forget anything.
Yeah. No, I don't have a last question, no. Mm-hmm. Except, are you happy? Mark?
I am. Merci beaucoup.
Ah, good. I am happy too.
Okay.
And Jacques Chirac, il avait dit la même chose. I am happy three.
Happy three. Jacques Chirac était un docteur S langue, effectivement, en anglais, tout à fait.
Well, oui.
You want me to come back in my country?
yeah.
Yes, take the plane. Merci Terry, merci pour ce bon moment de radio.
Raymond, bonne chance et bonne route.
Merci, see you soon.
Ciao, mate.
Bye. Merci à Terry Scott qu'on retrouvera une autre fois dans les playlists de Sweet Home Chicago. Et on ne pouvait pas mieux tomber avec la rubrique 50 Years After. On revient en 1972, année charnière pour Terry Scott puisque c'est l'année où il est arrivé en France. Et puis le groupe 10 Years After qui, eux, sortaient cette année-là Rock and Roll Music to the World. C'est le titre qui va clôturer ce 1162e Sweet Home Chicago. Voici Alvin Lee et sa bande. On est en 72. Rock and Roll Music to the World, 10 Years After. On était en 1972, c'était la rubrique 50 Years After pour ce 1162e Sweet Home Chicago. On va se retrouver la semaine prochaine avec les invités d'honneur de la deuxième heure, Gypsy Bacuet et Lionel Werner pour le groupe Lionel Blues Gang et la présentation de leur tout nouvel album. Et puis, c'est Fred Delforge qui fera les honneurs de la première heure avec sa participation à la rubrique My Rock Heroes. Fred Delforge qui a choisi le groupe Trust. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, bye bye.